Vous écoutez Radio Libertaire 89.4, la radio de la Fédération Anarchiste, la radio sans Dieu, ni maître, ni publicité. Et c'est Jeudi Noir qui commence. Vous venez d'entendre un morceau de Cypress Hill, Loco en el Coco, Insane in the Brain, dans la version originale. Et là, c'était une version espagnole, enfin l'espagnol. Voilà, donc ce soir, c'est Jean Mathias qui est enfin revenu de ses vacances mystérieuses, et qui va pouvoir, d'où il nous faisait des tas de bisous, qui va pouvoir nous parler d'un livre édité chez Lux, une maison d'édition qu'on aime bien. Ils sont québécois, non, Lux, je crois.
Ouais.
Un livre donc chez Lux de Ludovic Lamant qui s'intitule Squatter le pouvoir, les mairies rebelles d'Espagne. Donc voilà, c'est Ludovic Lamont, d'après la quatrième de couverture, et correspondant à Bruxelles pour le site d'information indépendante Mediapart. Et il couvre principalement la crise européenne et l'Espagne depuis 2009. Alors, peut-être que Jean-Mathias a plus d'infos, mais voilà de quoi on va vous parler ce soir.
Oui, bah alors deux mots là-dessus. Alors, c'est un livre qui est récent, hein, parce qu'il est sorti, cette année là. Donc oui, non, sur Ludovic Lamont, j'ai pas beaucoup plus d'infos que ça. Ben bon, j'avais prévu de parler de ce bouquin-là, là, parce que c'est un livre qui m'a beaucoup beaucoup plu. Donc c'est un peu décalé par rapport à notre actualité franco-française là, électoralo, présidentialo, monarchico, fascisto, voilà. Donc bon, bah comme c'est pas très réjouissant de façon chez nous, on peut voilà, c'est aussi pas mal d'aller prendre un peu l'air pour voir ce qui se passe d'intéressant de l'autre côté des Pyrénées. Donc avec ce livre donc de Ludovic Lamont là, Squatter le pouvoir, les mairies rebelles d'Espagne. Alors c'est le contexte de rédaction du bouquin, c'est quoi? C'est en fait donc il est journaliste à Mediapart là, Ludovic Lamont. Et en fait, il est en Espagne au moment du mouvement des places, hein, donc au moment du le fameux mouvement du 15e là, à Madrid. Donc bah comme beaucoup de journalistes ou même de personnes présentes à ce moment-là, il est resté un peu sur le cul de ce qu'il a vu à ce moment-là en Espagne, c'est-à-dire de ce mouvement d'occupation des places massifs là, avec effectivement une espèce d'auto-organisation horizontale assez impressionnante. C'est un peu du nuit debout, mais puissance 10 ou 12 quoi, hein, en termes numériques, en termes d'auto-organisation, en termes d'implication et de liaison aussi avec les quartiers populaires de Madrid et de toutes les autres villes d'Espagne. Et puis en termes de projection programmatique, hein, c'est vrai que c'est pour ce qui est de l'Europe, c'est un des mouvements qui a été sans doute le plus loin dans la radicalité, dans l'auto-organisation et puis dans la critique de l'État et puis des formes de la démocratie représentative. Donc il était resté sur le cul à l'époque, évidemment. Donc il avait fait pas mal de papiers déjà pour Mediapart là-dessus. Et puis en fait ensuite il y a eu un peu l'histoire qu'on connaît, c'est-à-dire que ce mouvement c'est un peu étiolé au bout d'une durée quand même assez significative. Et puis après ce qu'on a su de l'Espagne a été un petit peu parcellaire, parce que on a beaucoup entendu parler de l'émergence de Podemos bien sûr. De ce parti on va dire, je sais pas, d'extrême gauche populiste, les catégories sont assez difficiles à mettre. Mais enfin bon, pour ce qui est de la direction de Podemos, en fait, c'est des gens qui sont trotskistes quoi, qui sont donc d'extrême gauche assez classique en réalité, et qui ont su, en tout cas, utiliser un peu l'effet de souffle de ce moment du 15e là pour monter une organisation politique nationale qui a des visées, qui avait pour visée, en tout cas, qui a toujours jusqu'à présent la conquête du pouvoir hein, en Espagne. Donc ça a été pas mal médiatisé, on a eu pas mal d'infos là-dessus. Et surtout lui, ce qui l'intéresse et ce qui l'amène à revenir en Espagne, c'est en fait la vague des dernières municipales espagnoles, qui va voir accéder dans des dizaines et des dizaines de villes espagnoles, et puis pas des moindres, puisque il y a les principales villes du pays, hein, commencer par Barcelone, Madrid, mais pas seulement, Saragosse, Cadix, Saint-Jacques-de-Compostelle et beaucoup d'autres, des majorités municipales alternative, on pourrait dire ça comme ça, qui en tout cas sont identifiés à aucun des partis politiques espagnols institutionnels, que ce soit le Parti populaire, donc héritier du franquisme, la droite espagnole ou le Parti socialiste espagnol, pas dans toutes les villes, mais dans toutes les villes prises par ces nouvelles équipes municipales, ces partis sont littéralement balayés. Et la plupart des gens qui accèdent dans les mairies à l'occasion de ces municipales se revendiquent d'une manière ou d'une autre du mouvement du 15e. Et du coup, ils retournent en Espagne à ce moment-là, donc c'était en gros l'année dernière et il y a un an et demi, hein, Et il va essayer de retrouver les gens qu'il avait rencontrés sur la place de Madrid. Et puis il essaie de réactiver les réseaux qui s'est constitué à ce moment-là pour essayer de voir ce qui s'est passé. Parce qu'effectivement, et c'est un des trucs intéressants du bouquin, il montre que cette dynamique là très spectaculaire au municipal, en fait, est à distinguer de ce qui s'est passé justement autour de Podemos. C'est-à-dire que Podemos a été beaucoup médiatisé et a capté un petit peu l'attention des médias étrangers, notamment autour de... voilà. Mais ce qu'il montre, et ce qu'il va découvrir, et ce qu'il montre très bien dans le bouquin, c'est comment, en fait, toutes ces équipes qui accèdent aux mairies sont effectivement issues des mouvements militants, des mouvements sociaux espagnols, donc qui ont largement contribué au succès du mouvement d'occupation des places. Et en même temps, ont suivi, eux, en fait, une autre trajectoire que celle de Podemos. Alors, aux côtés de Podemos, avec Podemos, bien souvent, en s'appuyant parfois, en étant soutenus par Podemos, etc. Mais sur des logiques qui ne sont pas celles de l'organisation d'un parti politique classique comme l'est Podemos aujourd'hui. Un parti politique classique, c'est un peu dur de dire ça, parce que Podemos eux-mêmes, ont ouvert grand les portes, avec des systèmes de plateformes, de consultations citoyennes, Internet, etc., etc. Donc aujourd'hui, c'est devenu beaucoup plus classique comme organisation, même s'il y a eu aussi, évidemment, dans la constitution de Podemos, ça. Et là, en fait, donc, il va présenter déjà un petit peu ces gens qui accèdent aux mairies. Alors, il se trouve que ces gens, au moins dans deux cas assez symboliques, ce sont des femmes. C'est le cas à Barcelone, c'est le cas à Madrid. Donc, il va pour rencontrer Ada Colau, notamment à Barcelone, et puis Manuela Carmena à Madrid, et aussi des gens de leurs équipes, pour essayer de voir comment ils ont réussi à conquérir les mairies déjà, et qu'est-ce que c'est que cette expérience municipaliste un peu originale auquel on accède, comment ils ont construit en fait leur majorité, sur quelle méthode entre guillemets ils ont mis en place entre le mouvement des places et puis leur victoire pour faire ce travail de fourmi qui consiste à aller voir les gens dans les quartiers, les militants, mais pas seulement les militants, à élargir, à essayer de reformuler les problèmes, à essayer de trouver des dénominateurs communs, à essayer d'éviter les pièges justement de se faire reprendre par telle ou telle organisation, telle ou telle sigle, etc. Comment tout ça a pu fonctionner et donner une espèce de vague assez unique en Europe, où on a effectivement des candidats issus des mouvements sociaux et issus de la société civile qui accèdent aux mairies et qui foutent dehors, pour le coup, il n'y a pas d'autre mot, tous les représentants des partis institutionnels qui gèrent les affaires depuis au moins 40 ans.
À cette époque-là, j'ai entendu que les représentants de ces partis traditionnels avaient été extrêmement choqués parce qu'ils avaient l'impression qu'ils laissaient la mairie aux anciens punks à chiens, quoi.
Ah ben, il y a un peu de ça, effectivement.
Pour nos auditeurs, on peut peut-être préciser trois choses, quoi, en fait. Dans ce que tu dis, il y aurait trois trucs à distinguer. Il y a le mouvement des places, c'était le mouvement des indignés, Donc le mouvement des places d'un côté, d'autre côté, il y a ceux dont on a beaucoup parlé, c'est le parti Podemos,
oui.
Et qui s'est déchiré là récemment autour justement de questions stratégiques, tactiques et autres. Et puis il y aurait ce truc qui est et il y a la conquête des mairies.
Exactement.
Par, alors c'est quoi, c'était des gens qui étaient sous le sigle Podemos?
Non, même pas.
Mais c'est des gens qui sont sans être sous le sigle Podemos, sans être sous le sigle en tout cas Podemos, qui viennent du mouvement des places.
Qui viennent du mouvement des places, et ils viennent aussi de beaucoup plus loin.
Oui.
Hein, je vais donner quelques exemples.
Oui, parce que avant le mouvement places, ils étaient ailleurs.
Bien
évidemment.
Sûr. Donc alors, la victoire au municipal, c'est le 13 juin 2015. Hein, donc voilà, ça vous donne un peu la chronologie. Et alors, les exemples, en fait, un peu autour desquels il construit le bouquin. Donc il y a le cas de Madrid, évidemment, ce qui est quand même la capitale. Donc là, c'est Manuela Carmena qui accède à la mairie, qui est une juge à la retraite, 71 ans, le jour de son élection, respectée pour ses combats contre le franquisme finissant. Donc elle a eu une vie avant le mouvement du 15e, évidemment. À Saragosse, en Aragon, Pedro Santisteve, avocat pénaliste et professeur de droit, s'est fait connaître pour avoir créé une association de soutien au milieu carcéral.
On est quand même très loin des punks à chiens, là.
On est loin des punks à chiens, mais il y a sans... Alors, d'ailleurs, je ne sais pas s'il y a tant que ça de punks à chiens.
C'était ce que j'ai entendu. Ouais. C'est comme réaction des pouvoirs institutionnels, institutionnalisés en place. Ouais. Puis, on se fait remplacer par des squatteurs.
Ouais. Voilà. Alors, à la Corogne, dans le Nord-Ouest, Julio Ferreira, magistrat, né en 74, fan de l'équipe de football du Deportivo. C'est d'abord illustré dans les luttes syndicales étudiantes et les mouvements de solidarité, né après la marée noire du Prestige en 2002. À Cadix, tout au sud, José María González, surnommé Kichi, est un prof d'histoire qui s'est battu contre les coupes budgétaires dans l'éducation et est aussi connu des habitants pour avoir été l'un des chanteurs du carnaval qui embrasse cette ville d'Andalousie chaque mois de février. Et évidemment, le personnage sur lequel il démarre, je dis personnage parce que c'en est un, c'est la nouvelle maire, mairesse, je ne sais pas comment on dit, de Barcelone, donc Ada Colau, qui elle, est, en fait, vient des mouvements, alors c'est pas les punks à chiens, hein, c'est des mouvements de squatteurs de Barcelone, et donc de réappropriation des logements vides à Barcelone.
Ah oui, c'est pour ça le côté punk à chien.
C'est ça le côté punk à chien, bien évidemment. Bon, alors après, il y a aussi, ça j'en parlerai, il y a évidemment, il met pas ça sous le tapis, hein. Il y a aussi justement toutes ces campagnes de dénigrement médiatique, oui. Alors massives et permanentes, dont font l'objet effectivement ces maires-là depuis, et leurs équipes depuis qu'ils y sont,
nécessairement.
Mais faut mesurer l'ampleur du truc, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, c'est quand même des gens qui n'ont aucune étiquette politique, qui ne sont pas des militants politiques, qui sont pas affiliés à des partis politiques, et qui prennent plus d'une soixantaine de villes d'Espagne, dont les principales. Ouais. Hein, voilà. Donc c'est pas inintéressant en fait comme situation. Alors pour ce qui est d'Ada Colau, pour donner un peu une idée, le bouquin est pas mal écrit en plus, il sait faire, hein, c'est du bon journalisme en fait, je trouve. Donc il démarre son premier chapitre sur ce qu'il appelle le serment de juin, et qui est en fait, alors c'est avant la victoire municipale, on est en février 2013. Et là, c'est Ada Colau, donc la nouvelle maire de Barcelone, qui est invitée à titre de porte-parole d'un mouvement contre les expulsions immobilières. Et qui s'adresse en fait au congrès des députés à Madrid, quoi. Alors là, il y a des belles pages effectivement où il raconte effectivement cette espèce d'irruption de quelqu'un qui ressemble absolument pas aux gens qui sont effectivement dans l'assemblée.
Donc ils jouent pas leur jeu.
Ah, ils jouent absolument pas. Et ni dans l'attitude, ni dans le ton, ni dans le contenu du discours, etc. Donc moi, j'ai quelques lignes. Donc l'activiste, vêtu d'une tunique vert sombre, hésite un peu sur les premiers mots. Derrière elle, des rideaux rayés, usés. Et donc elle prend la parole. Je suis pas quelqu'un d'important. Je suis pas la présidente du collectif. Si ma présence ici peut avoir du sens, c'est parce que j'incarne de manière temporaire un mouvement citoyen qui implique ces jours-ci des milliers de personnes, un mouvement qui ne cesse de croître, qui mobilise des gens affectés par cette loi injuste. En débat ici même, et qui sont en train d'être expulsés du système et qu'elle condamne à une forme de mort civile. Donc on est sur des... Après, bon, il décrit, je vais pas lire l'ensemble, mais il reprend pas mal de passages du discours, et de fait, on a... Alors, est-ce que c'est un effet sans doute un effet de style. On sent qu'il cache pas son admiration et pour Ada Colau et pour Manuela Carmena. Et là, il y a effectivement quelque chose qui se passe, quoi. C'est-à-dire, on a les gens sont atterrés. Il y a le président qui donc après une formule où en fait. Voilà, on a cette formule là, donc elle est toujours dans son discours, hein, face aux députés espagnols. Dire que la loi espagnole est géniale, se lance Colau, quand il y a des gens qui sont en train de se suicider en conséquence de l'application de cette loi criminelle, je lui jette pas une chaussure à ce monsieur. Elle s'adresse à un député qui vient de dire que la loi était excellente, parce que je pense que c'est important de rester ici pour vous dire ce que je suis en train de dire, mais cet homme là est un criminel. Vous devriez le traiter comme tel. C'est pas un expert. Ces gens des institutions financières sont à l'origine du problème. Et là, alors, il nous décrit le visage atterré de son voisin direct, qui est effectivement à 30 cm d'elle, Santiago Lanzuela, chevelure grisonnante, impeccable, cravate bleue, est un député du Parti Populaire, la formation de droite qui règne alors en Espagne. Il a les traits pincés de l'homme de pouvoir qui a pas l'habitude d'être mis à sa place. La liberté d'expression ici est une règle d'or, avance-t-il, mais nous avons aussi fixé des limites. Le député menace de suspendre l'audition, demande à l'activiste de retirer sur le champ ses graves propos insultants. Elle le coupe sans lui adresser un regard. Je ne le ferai pas. Ada Colau excelle dans son rôle de paria du Congrès, etc. Et donc, voilà, on a
c'est le paysan du Danube.
On a quelque chose comme ça.
De cet ordre, genre, j'arrive, ouais. Moi je ne suis pas cultivé, je ne suis pas quelqu'un d'important. Exactement. J'ai pas grand chose à vous dire, à vous, grand sénateur romain. Et puis, puis au bout du compte, il y a un discours hyper rodé. Ouais. Et très très clair.
Très clair, et puis effectivement, sans, en dehors des formes de discours, voilà, de politique traditionnelle. Donc, bon, c'est comme ça qu'il présente, en fait, ces espèces d'irruptions, et puis le souffle que ça représente. Bon. Alors. Après, dans le livre, il y a beaucoup de choses intéressantes. Vraiment, moi, c'est qu'on soit d'accord ou pas sur le fond. Après, ça, il met pas tous les problèmes sous le tapis. Hein, je veux dire, il y a des formes d'opportunisme très claires. Il y a des voilà, mais il s'est passé quelque chose d'assez unique, quoi, dans cette affaire-là. Donc, il y a notamment des choses très intéressantes sur la manière dont, en fait, ils ont C'est toutes ces, le point commun en fait de toutes ces municipalités, c'est d'avoir construit ce qu'on appelle les plateformes citoyennes. Donc en fait, des plateformes de revendication sur la base effectivement de ce qui était exprimé dans les réunions AG, réunions de quartier, etc. Avec une espèce de proscription presque explicite de toute forme de meeting politique. Voilà, donc pas de meeting politique, pas de réunion politique. Hein. On fait des réunions de quartier, des bouffes sur des places quand ça s'y prête. Voilà, on invite, mais voilà, tout le monde prend la parole de manière horizontale. On prend des notes, on écoute, on machin, voilà. Et à la fin, effectivement, de ça, on consulte sur Internet également, mais en privilégiant toujours voilà la rencontre physique. À partir de ça, effectivement, on construit un programme qui est censé être voilà l'émanation directe hein, de ce qui s'est exprimé dans ces réunions-là. Alors sur le papier, il y a plein de gens qui parlent de ça, qui réfléchissent ou qui disent faire ça depuis très longtemps déjà en fait. Bon là, ce qui est ça d'original, c'est que ça marche. Voilà. Donc il y a un certain nombre de choses, voilà, de points de méthode qui sans doute se sont avérés. Voilà. Alors bon, il y a un contexte aussi, hein, le contexte espagnol aujourd'hui, avec taux de chômage surélevé, notamment chez les jeunes, crise immobilière, les expulsions, etc., etc. Mais peut-être qu'il y a eu fait aussi, voilà, une forme pas seulement d'opportunisme, mais de réalisme et puis de sens politique aussi.
Un vrai travail politique au sens.
Un vrai travail politique, exactement.
On essaie de faire le lien avec les gens et puis on essaie de parler tous ensemble.
Peut-être, exactement.
Aussi niais que cela puisse paraître,
bien sûr.
C'est pas forcément évident.
Alors, c'est comme ça qu'il dit. Donc, la première, il y a des règles, en fait, hein, d'après lui, des règles qui ont été effectivement partagées de manière assez ouverte par toutes ces listes-là. La première des règles est élémentaire, nous dit-il, pour une confluence digne de ce nom. Il ne faut surtout pas arriver à un bouillon de sigles, comme disent les activistes. Soupe de sigles, disent-ils. Expression associée à la vieille manière de faire la politique. Alors, est-ce que c'est si vieux ou si... Voilà, je ne sais pas. Mais en résumé, tout le monde peut participer. On va pas te demander ta carte d'électeur, hein, entend-on souvent. À une condition, mettre entre parenthèses son appartenance à une organisation, un parti, un syndicat ou un mouvement social. Condition première. Afin d'agréger les uns et les autres, il faut s'entendre par deux à les identités politiques classiques sur des objectifs concrets. Bon. Alors, glissement qui va permettre de débloquer beaucoup d'énergie sur le terrain, que ce soit à Madrid, à Barcelone, etc. À chaque fois, ces listes ont martelé, nous dit toujours Lamant, à longueur de campagne, leur programme des minimos, comme on dit, c'est-à-dire leur dénominateur commun, à savoir une poignée d'objectifs très consensuels dans l'opinion et face auxquels il est difficile d'être en désaccord. L'arrêt des expulsions immobilières, la lutte contre la corruption politique et la fin des privilèges pour les élus, ou encore le combat contre l'extrême pauvreté infantile. En plein essor dans les banlieues des grandes villes françaises. Encore aujourd'hui, Ada Colau, devenue maire de Barcelone, revient toujours à ces objectifs-là lorsqu'on lui demande de se situer sur un spectre gauche-droite. Voilà, on avance. Alors, il y a des petits essais.
Ça, c'est marrant parce que c'est des techniques qui sont largement utilisées aujourd'hui en termes de discours. Tu sais, s'opposer de façon virulente à quelque chose, à quoi personne ne peut souscrire. Ouais, ouais. Tu dis, moi, je suis contre l'esclavage. Ouais. Tu vois, t'as plein de gens qui prennent la pause comme ça.
Oui.
Et c'est rigolo d'utiliser de cette façon-là. Mmh. Au sens où, la plupart du temps, c'est des discours. Ces discours-là sont plutôt tenus par des dominants.
Bien sûr, bien sûr.
Et là, ils reprennent le truc en visant des choses qui sont très très problématiques, enfin qui sont plus que problématiques, qui sont scandaleuses dans la société capitaliste. Oui. Et c'est ce qu'ils vont mettre en avant en dehors de tout. C'est intéressant.
Alors, donc, bon, en même temps, rien d'extraordinaire, mais l'ordre dans lequel les règles sont énoncées, à mon avis, compte. Hein, voilà, donc, effectivement, d'abord, on dégage toute forme d'organisation identifiable. Deux, ensuite, on brasse sur quelque chose pour construire ce qui. Voilà, l'objectif, c'est de construire une espèce de sens commun, en fait, hein, un sens commun, donc effectivement, quelque chose qui ne soit pas contestable, sur des thèmes qu'on choisit, en quelque sorte. Hein. Ensuite, donc, effectivement, alors, il ne cache pas que ça laisse des problèmes en suspens, effectivement, parce que, à chaque fois, ou très souvent, ce travail-là s'est trouvé associé à une personne. Alors qu'évidemment, on recherche l'horizontalité, la dépersonnalisation, mais il faut quelqu'un sur qui ça se fixe. Ça, c'est une règle également. Alors, il nous dit que ces méthodes de travail inclusives de confluence permettent d'accoucher de programmes plus ou moins fouillés en quelques mois à peine. Des réunions participatives avec des voisins se sont tenues dans chaque quartier, tandis que les contours du collectif ne cessaient de s'élargir au fil des discussions. Pour le grand public, l'affaire est longtemps restée obscure. Et ça, je pense que c'est un point aussi intéressant, parce que c'est sans doute resté obscur pour le grand public en Espagne, mais alors ailleurs, encore plus. Et ce travail-là, effectivement, il est, voilà, il y a quelque chose d'intéressant là-dessus. C'est un travail un peu, pas en sous-marin, parce qu'il s'agit de rien cacher, mais c'est, voilà, il y a un moment donné, on se remonte les manches, et puis, effectivement, on le fait, ce boulot-là, en quelque sorte. Juste avant les élections, nous dit-il, Catherine est resté à confectionner des listes et à dégager un chef de file. Et c'est ici qu'intervient un autre ingrédient clé des confluences, des primaires, dit-il, organisées sur Internet, ouvertes à n'importe quel électeur. Là encore, chaque ville s'y est prise à sa façon. C'est alors que les médias officiels ont découvert le phénomène, d'autant plus ignoré à ses débuts que Podemos n'y participait pas en tant que tel. À Madrid, où les primaires furent très ouvertes, 7 collectifs ont présenté des candidats. Voilà, donc il cite un certain nombre. Il y avait par exemple le collectif Más Madrid, donc plus de Madrid, emmené par Carmena, donc qui va finir par emporter le morceau, associé à des membres de Podemos, c'est d'anciens d'une autre organisation, qui se trouvait par exemple en concurrence avec une liste plus pure d'activistes du 15M et des secteurs autonomes. Alors, il y avait peut-être plus de punk à chien. Donc Madrid en mouvement, notamment. À l'invitation de médias en ligne indépendants qui ont joué le jeu, des débats ont été organisés entre les différentes têtes de liste. En tout, ils sont un peu plus de 15 000 madrilènes à avoir voté en 3 jours. Alors, L'idée, donc, on a après, à chaque fois, en même temps, c'est pas des recettes en kit, c'est-à-dire qu'effectivement, il y a une adaptation, après, à chaque ville, etc. Mais l'effet, par contre, ça est le même à peu près partout, hein, c'est-à-dire une repolitisation effective des classes moyennes appauvries, nous dit-il. On n'est pas sur des bases ouvriéristes ou même classistes, hein, puisqu'on s'adresse à ses voisins. Alors bon, il se trouve que c'est dans les quartiers populaires qu'on est, donc le tri se fait relativement rapidement. Mais c'est comme ça que ça démarre. L'idée ensuite, donc ça c'est en tout cas comme ça que ça a permis d'émerger à Madrid. Alors qu'est-ce qu'il nous dit d'autre après sur Madrid? Bon, il rentre un peu plus dans le détail, à la fois sur une fois arrivé à la mairie, qu'est-ce qui se passe quoi. Donc il y a un portrait assez intéressant là aussi d'un des responsables de la municipalité qui s'occupe en fait de la tout le travail informatique en fait tout, pas le travail informatique mais toute l'utilisation des réseaux sociaux et des outils informatiques au service de la démocratie municipale. Il s'agit d'un certain Pablo Soto qui est en fauteuil et qui est un peu le geek de l'équipe municipale. Bon, on va peut-être faire une petite pause municipale et puis après j'en dirai un peu quelques mots.
On va vous diffuser un petit morceau de musique vachement bien et puis on revient.
Málaga por cable.
Habladurías, dueñas de las calles, dueñas de las vías, son habladurías, destrozan con malicia, se adueñan de mi vida si cometes un error. Habladurías, hay dolor en el mundo, en parques, en aceras, en movidas callejeras, entre sonrío y te la doy al darte media vuelta, entra en mi mundo singular 2004 y aún sigo con el rap, 2 docenas de mis rimas, por una sonrisa no me pongo apodos, porque solo soy Elisa, te alejaste de mí, por la sinceridad y hoy me ocultas bajo máscaras tu verdadera identidad. Forzando una sonrisa con esa mirada perdida en mis ojos, no me ocultas nada. Hoy me hago fuerte, intento ser consciente de mi propia realidad. Por eso procuro no juntarme con vosotros. Banda de niñatos, harta de collados, de parques, de porros, de maderos, de flipados. De lo que me está rodeando, de habladurías que sobran encollado. Vivir aquí es estar completamente sentenciado a infinitas críticas. Quizás fui yo la discordia en el parque para muchas y un dolor de cabeza agudo para alguno. Aburridos en corros, os paséis las puñaladas. Desinteresadamente, qué gran minoría, que cuando piensas que has perdido todo, te devuelven la vida, no te piden nada a cambio y te aprecian como eres. Gracias a esos pocos que no me ponen verde por el hecho de quedar bien con esa mierda gente. Ausente me declaro hoy en día en el parque, en mi burbuja solo entra aquel que yo mande. Me decepcionan diariamente, pero hay muy pocos que me afecten realmente. Si algo tengo ya muy claro, es el asco que le tengo a mucha gente de collado. Si voy a saco, es porque gente que no tiene nada en qué pensar. Si me escuchan diariamente en lo que yo hago, que os follen, que os follen, que os follen, que os follen.
Bonsoir, vous écoutez Radio Libertaire 89.4, la radio de la Fédération Anarchiste, la radio sans Dieu ni maître ni publicité. Et c'est Jeudi Noir qui se poursuit pour sa deuxième partie. Vous venez d'entendre un morceau d'Elisa MC, Abladourias. Donc José n'a pas trouvé d'infos, voilà, parce qu'il a, il appartient pas encore au RG. On espère que bientôt ça va s'arranger. Et Jean-Mathias donc nous parlait d'un livre plutôt intéressant qui s'intitule Squatter le pouvoir, les mairies rebelles d'Espagne, un livre de Ludovic Lamant, édité chez Lux cette année. Et donc là, il nous parlait de l'organisation des élections et de la façon dont les collectifs
la campagne
dans la façon dont les collectifs finalement avaient mis au point leur programme, avaient départagé les candidats sur lesquels devait se fixer la passion populaire. Et et là, tu nous parlais d'un type en fauteuil qui était le geek, ouais, le geek de la campagne
municipale à Madrid, en tout cas. Peut-être encore dire deux mots sur la campagne, parce que ça, je pense que c'est un point sur lequel c'est un point sur lequel il y a eu très peu de couverture médiatique. Et il le dit, parce que c'est effectivement, c'est un travail de terrain un peu aride, un peu austère, et les journalistes n'aiment pas ça, en fait, les choses arides et austères. Et puis, et en même temps, c'est là que beaucoup de choses se jouent, hein. Donc, par exemple, sur la forme des réunions, là, j'insistais là-dessus, hein, encore deux mots quand même là-dessus, sur, voilà, le fait de refuser, par principe, la forme du meeting politique. Alors, en fait, la forme adoptée par la plupart de ces listes-là, pour constituer leur programme, c'est donc plutôt la réunion de quartier, et en fait un rituel de questions-réponses, dit-elle. Donc il y a des gens qui se proposent effectivement de construire un programme et qui sont interrogés par les gens, hein, qui donc vont répondre quand ils peuvent répondre ou qui répondent pas quand ils savent pas répondre. Hein. Donc l'idée effectivement, il insiste là-dessus, les militants le disent eux-mêmes, hein, c'est tout se passe sur le mode de la conversation. Ça n'a rien à voir avec un meeting, c'est un des présents qui parle. D'ailleurs, si je devais parler seul face à la foule, je ne saurais même pas quoi dire. Hein, glissent certains là-dessus. Et donc, alors, pour ce qui est de Madrid, effectivement, c'est le jeu, et c'est comme ça que ça s'est passé. Et ce que je disais aussi un petit peu tout à l'heure, l'importance d'une figure, effectivement, une figure pour incarner ça. Et on a, alors, peut-être, bon, là, en l'occurrence, à Madrid ou Barcelone, ce sont des femmes. C'est pas des inconnues complètes, c'est-à-dire qu'elles ont un parcours effectivement personnel, souvent, voilà, politique, mais politique pas au sens, voilà, de parti classique. Et en même temps, elles sont suffisamment lisses pour effectivement agglutiner des tas de choses et des tas de mots d'ordre, d'espoir, de représentation, sans raconter, sans avoir besoin de faire de démagogie non plus. Et c'est un atout. C'est considéré comme quelque chose, effectivement, comme un point fort. Là, par exemple, il y a une Tania Sanchez, qui est une fille des Nouvelles Gauches espagnoles, qui déclare, voilà, Manuela, donc la nouvelle maire de Madrid, est avant tout un signifiant. Le signifiant vide par excellence. Hein, elle dit ça comme ça.
Le signifiant vide, ça c'est du structuralisme.
Oui, enfin, bon. Évidemment. Voilà. Mais, alors, ça c'est quand les théoriciens parlent de la chose. Ouais. Mais, aux yeux des gens, je dirais, ce qui apparaît, c'est quoi? C'est que, alors, c'est pareil, il dit ça comme ça, c'est un trait récurrent chez Carmena, un rejet de tout ce qui peut ressembler de près ou de loin à des idéologies figées, doublé d'une défense acharnée des idées, du pragmatisme et de la gestion. Parfaitement revendiqué, c'est-à-dire que, elle le dit aussi ailleurs, elle dit, finalement, la politique, si c'est pas réalisable, pour moi, ça n'a juste aucun sens. C'est-à-dire, je prends même pas de temps à discuter de la chose. C'est quelque chose qui peut pas être réalisable d'une manière ou d'une autre. Ne m'intéresse pas, en fait. C'est ça. Et par contre, ça veut dire aussi qu'elle se réserve le droit, et notamment dans ces réunions-là, de choisir ce qu'elle fera ou ce qu'elle fera pas. Donc, il y a des déclarations, elle explique, voilà, ce que je vais pas faire, par exemple, si je suis élu maire de Madrid, donc là, on est avant les élections. Ce sont toutes ces inaugurations, déclare-t-elle, avait prévenu Carmena. Je déteste les inaugurations, couper des rubans, poser une pierre, tout ce cirque. Que fait un politique, dit-elle? Il fait de la gestion, à partir des objectifs qu'il a portés à travers sa candidature. Et moi, mon objectif, c'est, par exemple, de réduire les inégalités entre le nord plus riche et le sud de Madrid. Bon, formule simple, je dirais, effectivement. Quand on dit gestion, c'est pas gérer les affaires courantes. Hein. C'est mettre en application des objectifs, pour lesquels on a été porté devant. Alors, ces choses, ça paraît simple, mais lorsque c'est fait, en réalité, effectivement, ça, c'est là où les choses changent, en fait. Il y a quelque chose comme ça. Alors, elle a aussi, le côté signifiant ville, là, comme disent les théoriciens, fait aussi qu'elle a été portée toujours on est toujours à Madrid, là. Elle a fait l'objet de tout un tas de récupérations de la part, alors, de graphistes, de la part de publicitaires, autres, etc. Et ce qui a beaucoup servi aussi sa campagne, hein. Elle dit, auprès des plus jeunes, par exemple, séduit par son parcours et l'absence de tout réflexe carriériste, Carmena est vite devenue une égérie. Les derniers jours de campagne, son visage était partout sur les réseaux sociaux, les murs de la ville. Elle s'était transformée en un objet pop, hyper viral, récupéré par les hipsters de Madrid qui n'avaient jamais entendu parler d'elle 2 mois plus tôt. Carmena elle-même ne contrôlait pas grand-chose de cet élan spontané jamais vu. Il n'était pas question d'affiches politiques traditionnelles. De toute façon, il n'y avait pas d'argent pour ça. Oui, le financement de la campagne sur financement, sur financement participatif.
D'accord.
Pour contourner justement les banques qui étaient l'ennemi ONI depuis le 15e. Donc financement participatif pour pas dépendre effectivement de financeurs privés. Et donc il continue là-dessus sur la viralité. Là, de toute façon, il n'y avait pas assez d'argent pour faire une campagne traditionnelle. Donc une armée de volontaires, des graphistes, vidéastes, publicitaires, dessinateurs avaient transformé une plateforme internet baptisée Movimiento, pardon pour l'accent, de Liberación Gráfica de Madrid, mouvement de libération graphique de Madrid. Ils ont inventé des centaines de déclinaisons du personnage de Manuela. D'autres sites sont nés ensuite dans la foulée. On l'a vu en Catwoman sexy, dessiné par un artiste, ou en Mary Poppins en apesanteur au-dessus des toits de la ville. Un autre dessin, la ligne claire du bédéiste Berrio, la montre en train de marcher en poussant son vélo dans l'immensité de Madrid. Elle est aussi apparue dans un clip joyeux où des dizaines de madrilènes se recouvrent le visage d'une photo de Carmena, avec cette citation finale de l'intéressé: vous m'interpellez, m'appelez Madame le maire, c'est vous qui serez maire et c'est un défi que je vous lance, alors ne vous débinez pas. En quelques jours, l'affaire était pliée. L'ex-juge, à l'origine peu connu du grand public, était devenu un objet de passion citoyenne, ce que tu disais tout à l'heure. Et ce qui donne la force au personnage, c'est sa trajectoire personnelle et professionnelle. Évidemment, c'est pas un signifiant vide, en fait. Son rapport au monde, sa défense des droits de l'homme, bref, ses fondamentaux éthiques. C'est une dame qui peut être à la fois aimée des hipsters, des adeptes des cultures urbaines, mais aussi des mères de famille et des grands-mères. S'enthousiasmait à l'époque un des fondateurs de la liste. Et il y a même plus de conclusions là-dessus. Prêt à tout pour faire gagner son idole, ce dernier était allé jusqu'à créer un faux profil de Manuela Carmena sur le réseau social de rencontres amoureuses Tinder, avec une photographie noir et blanc de l'intéressé à 21 ans. Bon, mais la dynamique de l'initiale. Bon, alors évidemment, il y a des petites, ça peut avoir des côtés assez ridicules. Mais sur la... Hein? Mélenchon, je sais pas s'il y a eu un profil de Mélenchon à 21 ans sur Tinder. Bon, mais on a dit qu'on n'en parlait pas. Donc... Mais sur la, enfin, en même temps, c'est pas la campagne de la France insoumise là, donc on nous raconte. Hein. C'est autre chose. Hein. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a des signes communs, il y a des mots, des objectifs qui apparemment sont les mêmes, mais dans la forme, ça, visiblement, ça n'a absolument rien à voir.
Et dans les moyens employés.
Dans les moyens employés, bien évidemment.
Ouais. Parce que Mélenchon, c'est pas simplement signifiant vide pour le
coup. Non, non.
Parce que là, ce qui est rigolo, c'est que ce que tu racontes sur la mère de Madrid, on pourrait le voir aussi comme une forme de, comment dire, de culte de la personnalité embryonnaire. Et en même temps, enfin, tu vois,
c'est je sais pas si tu peux parler de la personnalité. Je veux dire,
oui. Ou à la fois décalé et
oui, parce que il y a quelque chose de cet ordre-là, oui.
Mais malgré tout, il y a quelque chose de cet ordre-là. Et en même temps, c'est l'aboutissement d'un processus qui n'est pas du tout centré sur une personnalité de chef.
Ouais.
C'est-à-dire que ça, là, pour le coup, ça a l'air plus en tactique du genre. Il faut que les gens sachent, nous identifient. Donc on a besoin d'une figure, et cette figure, il faut la médiatiser, faut jouer sur son image.
Et pas n'importe quelle figure.
Et pas n'importe quelle figure aussi, oui, une femme de 71 ans qui est juge, tout ça. Et après tu joues sur l'image, là, en présentant Catwoman, Mary Poppins, il y a un petit côté comique là-dedans qu'on ne trouverait pas dans le cul de la personnalité, par exemple. Ouais. Mais ça, tu vois, c'est... Enfin bon, c'est assez étonnant comme truc.
Oui, je trouve aussi. Oui, parce que c'est quelqu'un qui n'est pas n'importe qui, mais qui devient n'importe qui d'une certaine manière. Qui devient n'importe qui au sens où n'importe qui peut effectivement
se retrouver
ou s'y reconnaître.
Oui.
Voilà. Donc faudrait voir.
Faudrait dans le détail, c'est compliqué.
Un point de vue, écoute, de la personnalité, je sais pas, mais. Donc bon, tout ça c'est sur ce personnage-là de madrilène. Donc oui, deux mots, alors pareil. Bon, ce qui est intéressant aussi, c'est voilà, il connaît son métier, donc voilà, il y a un certain nombre de portraits. Donc je parlais là juste avant la pause de Pablo Soto, le geek de la mairie de Madrid, donc qui était effectivement un des membres de la plateforme aussi de Carmena, et qui s'occupe lui de l'utilisation de tous les outils informatiques, réseaux sociaux, voilà, pour la municipalité. Donc très inspiré, déclare-t-il, par les expériences qui ont été menées en Islande ou en Suisse, hein, pour lorsqu'il s'est agi d'imaginer les institutions municipales de demain, nous dit-il. Alors, sur le papier, encore une fois, rien de forcément original, sauf qu'il y a un contexte, il y a une dynamique qui fait que ça prend, et qu'il se passe des choses, et que les outils sont en l'occurrence appropriés par les gens. Donc il y a par exemple, il a mis en place une plateforme participative, un site internet qui permet en fait à des habitants, il y a un seuil de 50 000 qui est fixé, c'est 2% de la population de plus de 16 ans, pour valider et pour mettre en place des projets de référendum d'initiative locale. Donc c'est lui qui a mis en place ce site-là. Alors là, le modèle, c'est plutôt la Suisse, hein, effectivement, en essayant de l'adapter donc avec des technologies plus récentes. La mairie organise aussi des conseils municipaux ouverts, durant lesquels sont soumises au débat les 5 questions ou propositions les plus votées par les internautes. Donc là, c'est un ordre du jour participatif, on pourrait dire. À titre d'exemple, les élus ont eu à débattre par cette voie en avril 2016 de l'imposition d'une taxe foncière sur les biens de l'Église catholique à Madrid, qui avait obtenu plus de 17 000 soutiens à l'époque. Et pour Pablo Soto, ces initiatives s'inscrivent dans la droite ligne du slogan de campagne de Manuela Carmena. Alors, c'est un slogan, bien évidemment, mais on essaye effectivement de le traduire, le fameux slogan « gouverner en écoutant ». Alors, quoi d'autre encore? Il y a aussi effectivement, il a essayé de mettre en place une part du budget municipal participatif. Là aussi, on n'est pas sur des mesures qui sont révolutionnaires, mais ils le font, hein, en l'occurrence. Ce jour de février 2016, le madrilène Pablo Soto vient de présenter à la presse locale les grandes lignes du budget participatif opérationnel à partir de 2017. Il est ravi que les choses prennent forme. Enfin, après une entrée en fonction plutôt chaotique pour l'exécutif de Manuela Carmena, on y reviendra. En tout, c'est une enveloppe de 60 millions d'euros qui a été débloquée. Le budget annuel de la mairie de Madrid dépasse les 4 milliards, avec un volet d'investissement d'environ 600 millions d'euros. Le participatif porte donc sur environ 10% des budgets disponibles. Bon, 10%, ça commence à devenir intéressant, même si évidemment on peut...
Si tu retires de ça les charges fixes sur lesquelles finalement la plupart du temps des municipalités n'ont absolument aucune influence, c'est sans doute pas mal.
Alors, en parlant de ça, donc bon, ça c'est pour la partie effectivement, on dirait prometteuse et active, hein, de ces nouvelles majorités-là. Alors, il cache pas que il y a aussi des problèmes redoutables que rencontrent ces municipalités. Alors déjà, il y a des problèmes parfois d'inexpérience ou de compétences, je dirais, médiatiques, hein, avec des conneries, voilà, ou avec des propos déplacés ou qui immédiatement sont utilisés, voilà, par la presse pour dénigrer la municipalité. L'exemple, alors les villes sur lesquelles il revient lui plus précisément, donc j'ai beaucoup parlé de Madrid parce que là effectivement il développe beaucoup puisque c'est là qu'il était, donc c'est là qu'il a le plus de contacts. Il y a Barcelone évidemment pour le modèle de la campagne. Il présente aussi le maire de La Corogne, de Cadix, de Saint-Jacques-de-Compostelle. Il y a alors l'exemple le plus abouti, le plus politiquement pur, je dirais, c'est un petit village qui s'appelle Tiempozuelos. Alors là, il en parle. C'est un village en fait qui se trouve, alors pour ne pas dire de bêtises, on est où? Alors le surnom du village c'est Tiempo. On est où? On a un village de une localité d'un peu plus de 23 000 personnes à une demi-heure de voiture au sud de Madrid. Donc là, on est sur un petit bled, hein. Sauf que là, en fait, ce petit bled, là, lui, alors pareil, même mouvement, même chronologie, mais alors lui, il est pratiquement en autogestion complète, quoi. C'est-à-dire qu'on a,
alors concrètement, d'un point de vue, par rapport à l'État, par rapport à l'État fédéral, comment ça se traduit?
Alors, d'abord, comment ça se passe à l'échelle municipale? Comme à Madrid et à Barcelone, c'est une plateforme citoyenne qui a remporté en 2015 la mairie de cette ville en milieu rural, 29% des suffrages exprimés, soit quelques 3000 voix. Mais le nouvel exécutif, un cran plus radical que d'autres mairies du changement, a mis en place un système plus contraignant de contrôle de l'action des élus. La maire, Maria Jesús Alonso, et ses conseillers municipaux viennent chaque mois rendre des comptes, selon la formule officielle, à l'Assemblée de citoyens, ouverte à tous et qui compte au mieux de sa forme environ 80 personnes. Les élus expliquent ce qu'ils s'apprêtent à voter lors du prochain conseil municipal, et si quoi que ce soit pose problème aux participants, une discussion s'ouvre pour faire évoluer la position de l'exécutif, ce qui n'est pas un détail. Il s'agit d'en finir avec le statut de l'élu roi, disent-ils. Alors, déclaration d'un des présents, ceux qui sont présents décident, c'est aussi simple que ça, si l'Assemblée prend une décision, on suit. voilà, résume l'adjoint. Qui lui, alors, donc il nous présente l'adjoint en question, là, Juan Pedro Garcia del Campo, 54 ans, professeur de philosophie, conseiller municipal délégué au bien-être, à la santé et au municipalisme depuis l'été 2015. Et très honnêtement, il préférait continuer à traduire à Althusser, dit-il. Alors il dit, bien sûr, j'aimerais bien faire autre chose, écrire, lire, je me suis fait piéger, dit-il, mi-cognard, mi-sérieux. Donc, parce que c'est un travail qui est extrêmement chronophage. Et alors, donc l'idée, c'est à Siempo, c'est rien de moins que l'utopie d'une assemblée populaire au pouvoir qu'un groupe d'activistes très motivés, toutes générations confondues, tente de faire vivre. Alors là, il y a un petit détail qui m'a alerté aussi sur le fonctionnement de l'AG de contrôle des élus municipaux. Une idée assez simple, mais qui peut faire réfléchir. Donc c'est toujours cet élu qui raconte. Nous avons mis en place une liste de participants à faire signer à chaque réunion, poursuit Mario, trentenaire passionné par le municipalisme et qui termine une thèse en philosophie politique à Madrid. Tout le monde peut prendre la parole sur n'importe quel sujet, mais l'opinion d'un participant ne sera prise en compte dans les votes qu'à sa troisième participation à l'Assemblée. Cela nous permet d'éviter que des groupes de pression extérieure surgissent en force d'un seul coup et monopolisent l'Assemblée, comme lorsqu'un mouvement pro-corrida a débarqué pendant qu'on débattait de lois de protection des animaux. Alors ça, je sais pas, c'est une astuce, mais qui paraît toute simple. Mais le coup tu peux t'exprimer et voter au bout de trois présences. Je pense qu'effectivement, ça permet de dégonfler les bourrages d'AG et de salles. Ah, de... oui, il y a des forums internet, mais dans la pratique des AG.
En France, ce serait noyauté par des trotskistes très très vite.
Trotskistes ou pas trotskistes, mais quand il faut venir trois fois.
Ouais, quand il faut venir trois fois.
Quand il faut venir trois fois, déjà, t'as moins de monde. Hein.
Ouais, c'est vrai. Oh, mais lutte ouvrière. il viendrait six fois, hein, s'il le faut.
Évidemment, il n'y a pas de règle magique. Bon, bah, alors là, on a une forme. Voilà, ce qui est intéressant aussi, je trouve, c'est qu'il présente voilà, des mairies et des initiatives qui sont à des échelles, évidemment, complètement différentes. Quoi, puisque, voilà, on va de Madrid à Tiempo, là. Alors, il ne sous-estime pas les difficultés, j'en parlais aussi. C'est le cas notamment en Galice, à Ferrol, grosse ville également gagnée par une liste, par une plateforme citoyenne, qui en fait est dans une merde noire depuis qu'ils sont à la municipalité, parce que ils se sont fait élire sur un programme de municipalisation du traitement des eaux. Qui avait été privatisé par le Parti Populaire évidemment avant, donc c'est pas des petits détails, et en fait ça leur gèle à peu près 60% de leur budget, et il se trouve que les sociétés qui traitent les eaux à Ferrol appartiennent en fait à un homme d'affaires espagnol qui n'est autre que le propriétaire du Real Madrid, si vous voulez, pour vous donner une idée de la force de frappe, hein. Et donc il se retrouve évidemment pieds et poings liés au contrat signé par les municipalités précédentes, ce qui fait que leur marge d'action est extrêmement réduite et que du coup bien évidemment ils prêtent le flanc au non-respect de leurs engagements divers et variés. Donc voilà, il nous parle un petit peu de tout ça. Alors tout ça, c'est la partie témoignage, je dirais, du bouquin, qui est vraiment vraiment passionnante, hein, c'est-à-dire voilà, avec des portraits, avec des différents types de comptes rendus d'initiatives, aussi bien sur la campagne, sur la gestion municipale au quotidien, sur les difficultés, les campagnes de dénigrement, les erreurs aussi qui peuvent être faites. Et ça, c'est la partie témoignage. Alors après, on va peut-être faire une petite pause là, et puis je dirais deux mots des débats qui l'ouvrent un petit peu, notamment les rapports entre ces listes citoyennes et Podemos, le débat avec les mouvements sociaux aussi, parce qu'évidemment ils sont critiqués aussi par les mouvements sociaux, et puis éventuellement les perspectives, si on peut parler de ça, qui s'ouvrent à partir de ces expériences-là.
On se retrouve après une pause musicale.
Sigan ladrando, son las filas que nos prenden para seguir rimando. No trates de opacarnos, este brillo es muy difícil.
Bonsoir, vous écoutez Radio Libertaire 89.4, la radio sans Dieu, ni maître, ni publicité. Et c'est Judy Noir qui se poursuit pour sa troisième et dernière partie, consacrée ce soir à un livre édité chez Lux et écrit par Ludovic Lamant, qui s'intitule « Squatter le pouvoir, les mairies rebelles d'Espagne ». Voilà, donc là, on allait aborder le thème des, enfin, la problématique liée au rapport que pouvait entretenir le mouvement municipaliste espagnol avec le parti politique Podemos, ainsi qu'avec les nouveaux mouvements sociaux qui sont nés en Espagne après cette vague de conquête du pouvoir municipal.
Ouais. Alors, bon, encore une fois, le livre, je recommande. Hein. Je suis un peu embêté de pas pouvoir, voilà, lire plus le bouquin parce que ça fourmille vraiment, voilà, de portraits, d'initiatives. Donc peut-être oui, pour terminer, c'est peut-être dire deux mots quand même de. C'est pas un livre de théorie politique ou un livre de militant politique. Bon, on sent clairement qu'il a de la sympathie pour les gens qu'il interview et ce qui se passe. Hein. Je vous l'ai dit, lui, c'est son point de départ, c'est les réseaux qui s'est fait au moment du mouvement des places à Puerta del Sol, etc. En Espagne, et donc effectivement cette continuité-là l'intéresse. Alors t'as parlé de municipalisme, je pense que c'est vraiment le terme exact, c'est-à-dire qu'effectivement on est sur une forme politique qui est définie par son échelle d'intervention, je dirais, par son échelle d'intervention. Aussi, il faut le dire aussi, par le fait que c'est des initiatives et des responsabilités qui sont en partie limitées, hein, puis liberté, voilà, cadrée par les budgets, de l'État espagnol, évidemment. Alors, est-ce que c'est des dynamiques qui sont, voilà, généralisables? Est-ce que, voilà, elles sont limitées, donc faut pas se raconter d'histoire sur le fait que, voilà, tu changes l'ordre du monde avec ce type d'initiative-là, ou que t'es effectivement, tout à l'heure tu m'as repris sur le terme d'autogestion, effectivement, t'as raison, effectivement, sur ce point-là, c'est de l'autogestion, c'est pas de l'autogestion, c'est du contrôle démocratique, radical, voilà, des élus municipaux d'un bled de 23 000 personnes. Mais, je veux dire, à cette échelle-là, à l'échelle d'un pays comme l'Espagne, et vu le nombre de municipalités concernées, vu effectivement la trajectoire historique qui mène à ça, vu le contexte dans lequel effectivement ça prend, je trouve que ça mérite.
C'est très significatif, ouais. Et ça peut pas être écarté d'un revers de main.
Ah, ça c'est
clair.
Parce
que si on imaginait que Lille, Marseille, Paris, et je sais pas, Bordeaux, soit tout d'un coup, contrôlé au niveau municipal par des gens,
ni des Républicains, ni du PS, ni de la France Insoumise.
Ni du Front National. On pourrait se taper le cul par terre et commencer à faire la fête. Ouais. Enfin, se dire, il va se passer des choses, quand même, un minimum. Bon. Alors, ensuite, bon, après, faut voir dans les faits, faut voir leur marge de manœuvre, faut voir plein de choses. Malgré tout, je pense que nous et tous les auditeurs, on serait relativement curieux et peut-être un peu contents.
Ouais. Alors, évidemment, après, dès qu'on met des lunettes politiques, il y a plein de critiques qui nous tombent dessus, hein, effectivement. Ils sont opportunistes, ils peuvent être traités de pragmatisme, ils peuvent être traités, voilà, de tout ça, hein, de réformisme, voilà, dans le pire des cas. Il y a des tas de critiques possibles. Je trouve...
Lequel je suis tombé récemment, là, de Kianga Yamata Taylor, sur la revue américaine en ligne Jacobin, où elle parle justement d'un mouvement contre Trump, et elle dit, ok, il n'y avait peut-être pas assez d'ouvriers, ok, il n'y avait sans doute pas assez de noirs, ok, il manquait tout ça. Mais malgré tout, c'était le début de la construction d'un mouvement de masse. Et peut-être que c'est aussi ça qu'il faut voir. C'est-à-dire comment, si on veut vraiment faire bouger les choses, il faut rallier au-delà des groupuscules politiquement engagés.
Je sais pas s'ils font bouger les choses, ils font bouger des choses.
Ils font bouger des choses, ouais.
Voilà.
Ouais, t'as raison. Ensuite, le truc, c'est effectivement, dès que tu commences à mettre des lunettes politiques, tu peux commencer.
Ah oui, bien sûr, ça tombe tout de suite. Mais, ce qu'il essaye de faire, sans théoriser le truc et sans aller trop loin dessus, mais effectivement, c'est de situer ce mouvement municipaliste espagnol par rapport à Podemos et par rapport aux mouvements sociaux proprement dit. Hein. Parce qu'évidemment, du coup, ils créent des frustrations des deux côtés et ils sont en tension avec les deux. C'est-à-dire qu'effectivement... Alors, Podemos particulièrement, Podemos a une stratégie nationale, en fait, hein, maintenant. Alors, faut pas... C'est comme je disais au début, hein, Podemos a aussi, effectivement, essayé d'utiliser et de mettre en place des stratégies de construction horizontale, de pas reproduire la forme du parti, etc. Mais là, on sent, effectivement, et là, on a le recul pour le voir, c'est que, à partir du moment où l'objectif est de conquérir des institutions comme le Parlement espagnol, espagnol, il faut une structuration effectivement en forme partie classique à un moment donné, même si effectivement il y a le renouvellement, le contrôle, etc. Et encore le renouvellement, on pourra en parler, parce qu'effectivement la ligne stratégique, etc.
Si c'est un jeu qui est fait pour des parties, c'est très très difficile de jouer avec d'autres règles.
C'est très compliqué, voilà, c'est très compliqué, et il montre bien dans le bouquin comment effectivement il y a cette espèce de chassé-croisé permanent avec Podemos, c'est-à-dire et comment Podemos a été à la fois tenu à l'écart, pas manu militari, mais s'est tenu finalement à l'écart, ou a senti qu'il devait se tenir à l'écart, pour être exact. Voilà. Alors, ils sont là, hein. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a des gens de Podemos sur ces listes-là, ils y participent, ils soutiennent, etc. Mais il n'y a pas de, voilà, il n'y a jamais effectivement une espèce de dossard Podemos sur ces listes citoyennes. Du côté des mouvements sociaux, alors évidemment, il y a des tas de critiques aussi, c'est-à-dire, voilà, on se raconte des histoires, on rentre dans le jeu, on s'institutionnalise, on fait du réformisme mou, on perd le contact avec le terrain, avec la base, etc. Bon, c'est des critiques qui sont certainement en partie justifiées, même peut-être beaucoup. Ce qu'il essaie, alors il donne la parole aussi, hein, c'est-à-dire qu'il va avoir effectivement des gens qui ont refusé d'être sur ces listes-là, même si elles ont contribué, à construire les programmes ou etc. Donc il y a aussi tous ces aspects-là. C'est pas inintéressant du tout. Et après, c'est du point de vue des perspectives. Alors, c'est là où c'est effectivement où ça devient un peu plus, prospectif, je dirais, parce qu'effectivement, c'est un cas qui est unique en Europe en réalité. Hein. C'est un cas qui est unique en Europe. Alors, ce qu'ils essayent de se mettre en place actuellement, parce que il y a le Podemos qui s'est pris un demi-échec aux législatives, qu'ils n'ont pas réussi, à gagner les élections. Donc leur avenir, il est encore incertain là maintenant, hein, même s'ils ont fait un 16-17% qui était tout à fait honorable, mais ils sont derrière, en fait, ils sont pas incontournables, quoi, pour constituer un gouvernement. Donc, les municipalités, essayent d'avancer de leur côté, et ils fonctionnent par réseau de villes, alors à l'échelle européenne, pas simplement européenne, hein, il y a aussi des partenariats avec des villes en Amérique du Sud, avec, voilà, la tentative d'essayer de construire une essai de municipalisme international en réseau, on va dire. Donc il y a eu des contacts qui ont été pris notamment au moment de la crise grecque et juste après. Varoufakis a été effectivement aussi convié, essayer de connecter des gens, de faire rencontrer des gens.
Varoufakis, l'ancien ministre de l'économie
de Syriza en Grèce.
Syriza qui a démissionné avant que Syriza lâche face à l'Europe. Enfin, je sais pas s'il y avait trop de marge de manœuvre, mais bon, voilà pour en situer.
Et donc, mais il dit qu'en même temps que là, on est vraiment, on touche peut-être, il est possible qu'on touche aux limites de ça, hein, c'est-à-dire qu'effectivement, au-delà de ça, que faire? Bon, l'existence du réseau en tant que tel, il le dit, et j'aurais tendance à penser qu'il a raison, en tant que tel, c'est déjà un fait nouveau. C'est-à-dire qu'effectivement, penser à un réseau de villes transfrontaliers ou internationales sur ces bases municipalistes-là, c'est déjà un fait nouveau, je dirais. Alors après, ça suffit pas. Ça suffit pas pour effectivement enclencher une dynamique ou quoi que ce soit, mais il y a cette perspective-là qui dessine ou qui s'esquisse, on pourrait dire. Après, sur le cas de la France, ça marche beaucoup moins bien. Ça marche beaucoup moins bien parce que il y a un État qui est tellement historiquement puissant et centralisé. La seule ville de France qui se rapproche à peu près de ça, c'est Grenoble aujourd'hui. Sur une majorité qui est pas unique, qui est pas seulement une liste citoyenne, on a un accord effectivement qui ressemble un peu à ça. Hein. C'est-à-dire qu'on a un accord entre organisations politiques. On a eu il y avait du Front de Gauche, il y avait du Vert, il y avait des associations anciennes. Il y avait un terreau, il y avait une histoire associative sur Grenoble qui a permis de porter effectivement un accord municipal de ce genre-là. Il y a des initiatives, voilà, de type démocratie participative, un peu plus ou moins radicale, parfois moins, parfois un peu plus. Bon, mais le seul truc qui se rapproche un peu, et encore, on n'est pas effectivement dans la même dynamique, ça serait cette ville-là. Mais Grenoble est la 18e ville de France, c'est-à-dire que ce modèle, c'est pas un modèle, justement, parce que on sent qu'effectivement, c'est pris dans l'histoire de l'Espagne, et aussi, effectivement, dans la situation présente de l'Espagne, quoi. Donc, mais pour tout ça, voilà, il y a pas mal de choses à tirer. En tout cas, on apprend des tas de choses. Donc, je conseille vivement ce bouquin-là, Squatter le pouvoir, Les mairies rebelles d'Espagne, de Ludovic Lamant, édité chez Lux, l'année dernière, en 2016, hein, pour être exact. Pour faire un petit tour du côté des municipalités espagnoles et du souffle municipaliste des deux dernières années.
Voilà, donc c'était Jean-Mathias qui vous parlait. Et vous pourrez retrouver l'émission sur le site de José Gurdulu. Vous tapez Gurdulu, jeudi noir, vous trouvez. Et un dernier morceau de musique vachement chouette, Alto Bri, Recuerdos. Et on se retrouve dans 2 semaines.